Salut à tous et bienvenue encore une fois pour notre podcast hebdomadaire Super Physique. Je suis avec le blond vénitien, le magnifique, le sulfureux, l'extraordinaire, le génial, Julien Vénesson, auteur du livre La Nutrition de la Force.
Le sulfureux, j'ai bien aimé. Salut à tous.
Je vais garder le sulfureux pour la prochaine fois alors.
Ouais.
Salut Julien.
Salut Rudy.
Voilà. Donc encore une fois, notre troisième membre nous a imposé un petit lapin.
Ouais,
donc, je sais pas où il est passé, mais bon.
Tu fais peur, je pense.
Ouais, bah, je pense que c'est Akuma. Je pense que c'est Akuma qui fait peur.
Peut-être.
Il a l'air trop méchant sur les photos.
Il y a une certaine logique à l'explication.
Donc, je voulais commencer par une petite actualité, Julien. T'ai vu jeudi soir dernier, dans Touche pas à mon poste, sur T8. Tu as changé de coupe de cheveux.
Oui, j'ai changé de coupe de cheveux, et c'est vrai que j'ai plus de succès avec la nouvelle.
Donc en fait, Julien, de son vrai nom, William Carnimola, est passé à Touche pas à mon poste avec une nouvelle coupe de cheveux, une raie sur le côté.
Ça fait.
Et donc, tu as été vraiment formidable dans cette émission.
Ah ouais, j'ai trouvé
Pourquoi ne nous avoir pas dit que tu passais à la télé?
Ah, c'est mon côté un peu, tu vois, discret, un peu... J'ose pas trop, je me montre pas, quoi. J'ai une vie un peu cachée.
En plus, tu t'étais bien habillé, comme d'habitude, avec une veste de costard. J'aimerais essayer de vous de l'émission.
Moi, je trouve que tu parles quand même beaucoup de William. Je me demande si t'es pas un peu complexé par rapport soit à son physique, soit à sa tenue vestimentaire. Je sais pas ce qui se passe.
Mais c'est vrai que dès que je le vois, je pense à toi. Donc, je voulais le souligner.
C'est gentil, il est pas moche, hein. Il est pas mal.
Bah, il te ressemble, hein. C'est le sosie.
Bon.
Bon, sorry, alors il y a un livre qui est sorti aux éditions Thierry Soucard, donc tu m'en as parlé, Le bon choix au supermarché.
Ouais, je trouve que c'est un livre qui est pas mal. En fait, c'est un livre, comme son nom l'indique, qui explique comment faire le bon choix au supermarché. Donc, il liste en fait tous les produits, ou la plupart des produits qu'on peut trouver dans un supermarché, et qui détaille un peu par rapport aux ingrédients, les avantages nutritionnels, les défauts des produits des uns et des autres. Il y a aussi toute une partie avec... Des explications sur comment choisir son poisson, ses légumes, qu'est-ce que ça change de prendre tel ou tel produit par rapport à un autre, au niveau des yaourts par exemple, au niveau des desserts, des œufs, enfin vraiment je trouve que c'est un truc pratique qui est assez génial. Le prix est pas excessif, c'est 15,80 € et en plus de ça je sais plus, j'allais dire, je trouve que c'est un super bouquin. Je les ai vus travailler là-dessus. C'est un gros travail. Ils achètent tous les produits à leurs frais, hein, parce que Thierry Soucard, comme tu sais, c'est quelqu'un qui est assez indépendant, qui n'a pas de lien financier avec des industriels. Donc, il achète tous les produits et ils travaillent tous là-dessus. Donc, c'est un gros boulot. Je trouve que c'est vraiment un bouquin très pratique pour les gens qui veulent bien faire leurs courses, quoi. Donc, c'est pas forcément peut-être pour... les gens ici qui se contentent de manger brocoli, flocons d'avoine, mais peut-être pour leur famille, leurs proches, ou qui veulent un peu apprendre à mieux manger, mais tout en mangeant des choses un peu populaires, on va dire. Je trouve que c'est un bon cadeau, par exemple, ou, un bon livre, quoi.
Et en plus, c'est pas très cher, donc.
En plus, ouais, c'est pas cher. Bah, de toute façon, compte tenu des économies que font faire les livres, en général, un bon livre, ça fait plutôt gagner quelque chose que perdre de l'argent, quel qu'il soit.
On trouve ce livre en vente donc sur Amazon, la Fnac, à tous les points de vente habituels.
Ouais, c'est ça, ouais. Sur le site de la nutrition.fr aussi, il y a une boutique. On peut le trouver partout, quoi.
Bon, bah. Donc, je voulais faire un petit dernier point, là, comme j'ai vu, je sais pas si vous avez vu ou si vous suivez nos réseaux sociaux. Vous êtes pas mal à m'envoyer vos photos, donc avec t-shirt ou débardeur super physique, donc vous pouvez continuer à me les envoyer. Donc, comme ça, je les mets sur les réseaux, donc c'est assez sympa. Donc, si votre copine a aussi un t-shirt super physique et que vous faites une photo de couple, bah ça m'intéresse encore plus. Je trouve ça encore un peu plus sympa que de les faire tout seul.
Ouais, c'est vrai.
C'est vrai que là, j'ai mis Arnaud ce matin avec sa copine Aurore. Et la fois, j'ai mis mon élève Veig avec sa copine aussi. Et la fois, il y a Marine du Club Turquie qui m'a envoyé une photo aussi. Donc pareil, si vous êtes une fille et vous faites une photo avec le t-shirt super physique, n'hésitez pas à m'envoyer les photos. Après, je les mets sur...
Et est-ce que tu pourrais pas m'envoyer un t-shirt pour Akuma?
Quelle taille il fait, Akuma?
Bah, à mon avis, c'est du XS.
Il n'y a pas de XS.
C'est quoi le plus petit?
Bah, il n'y a même plus de S, je crois. Ils sont déjà tous partis.
Ah bon, bah... C'est nul. Bah, écoute, t'as qu'à en faire un spécialement pour lui, hein.
En petite parenthèse, j'avais fait faire un t-shirt une fois pour un bébé qui venait de naître. Ça coûte plus cher que pour adulte.
Ah ouais, bah c'est une question de volume.
T'as quelle honte ? Non, 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 même pas de volume. Hein.
C'était quoi ?
J'avais fait un t-shirt normal et tout pour enfants. Rien que le t-shirt revenait tout seul à 35 euros.
Eh ben dis donc.
Alors que même pour adulte, t'en fais un tout seul, ça te revient à 20-25 quoi.
D'accord.
Donc, petite parenthèse. Donc pour Akuma, il n'y aura pas de t-shirt. Donc voilà, vous pouvez envoyer vos photos. Donc, aussi bien sur le forum, donc il y a une petite rubrique, ou sur Facebook en privé, ou par email, ou y a n'importe où où je suis. Donc maintenant, on passe aux questions de la semaine. Julien.
Oui.
Est-il possible de faire une prise de masse efficace lorsqu'on est en pleine croissance? Donc c'est un petit jeune de 15 ans qui nous pose la question. Donc ça va être sans doute par rapport à la croissance osseuse en même temps.
Ouais, parce que bon, faut dire quand même la vérité, Rudy, tu m'as posé la question avant qu'on démarre le podcast. Je t'ai quand même répondu que c'était un peu comme si tu me demandais est-ce qu'on peut manger des cornichons quand on est gaucher, quoi.
William Carnimola, sors de ce corps, s'il te plaît.
Non, bon, c'est vrai que j'ai eu du mal un peu à voir le lien entre la croissance et la question sur la prise de masse.
Bah c'est possible que, comme par exemple, quand t'es gosse, tu grandis en même temps, donc t'as de l'énergie qui est dispatchée vers tes os, quoi, en gros.
Ouais, alors je pense déjà faut clarifier pour ce jeune homme, s'il a pas lu mon livre, la différence entre prise de masse et prise de muscle. Hein. Quand on est jeune, comme à son âge, il faut viser la prise de muscle, c'est-à-dire la prise de masse musculaire avec un minimum de graisse corporelle, pour un tas de raisons qu'on a détaillées dans des podcasts précédents, dans mon livre, et puis sur des articles aussi que j'ai écrits sur Internet, je pense qu'il peut retrouver ça assez facilement. Donc ensuite, si on se place dans une option prise de muscle, il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux choses, hein. C'est tout à fait possible, ça c'est sûr. Peut-être que il va falloir manger un peu plus qu'un adulte en termes de calories, puisqu'il y a effectivement un besoin de la croissance, et en plus un besoin par l'activité physique. À cet âge-là, on se dépense pas mal, on bouge pas mal. Donc faut bien manger, mais faut quand même veiller à pas prendre trop de gras. C'est un âge où on fabrique vraiment facilement de la masse musculaire, donc c'est vraiment le bon âge pour se faire de bonnes bases. Si en plus il s'entraîne correctement pour se faire un dos solide, par exemple, et puis un bon gainage, un bon arrière d'épaule, etc., c'est un super avantage pour la suite, que ce soit pour les performances physiques ou même pour sa santé articulaire et autres. Donc c'est plutôt bien, et il n'y a pas de contre-indication, c'est pas plus dur que pour un autre. Hein.
Ouais, et puis on peut voir sur ma vidéo que j'avais fait, donc sur ma vidéo d'évolution, j'avais bien progressé pendant la croissance, donc il n'y a pas de...
Ouais, ouais. Okay, et puis, t'avais... On peut voir aussi dans ta vidéo quelque chose, c'est que t'as jamais pris trop de gras, quoi. T'as toujours été...
Ouais, on a toujours vu bien mes abdos.
Ouais.
Même si quelquefois je prenais un peu trop de gras, j'avais toujours un peu les abdos, mais...
T'as jamais fait une prise de masse démesurée
Ouais, j'ai jamais été à moitié obèse.
comme font certains, et c'est très bien, et puis on voit bien le résultat sur toi aujourd'hui, donc c'est une bonne démarche, quoi.
Tout est dans le bronzage, c'est pour ça.
Ouais, c'est ça. Et dans les conseils de William Carnimola.
Ouais, donc ouais, non, bah, pour rebondir, ouais, ça gêne pas en fait, ça. Tu t'entraînes après, c'est sûr que si t'as 13 ans, ça va être plus dur, mais 15 ans, là, c'est le bon âge pour exploser. Moi, je me souviens à l'époque sur le forum, au tout début de. Donc, on avait migré de l'ancien forum Smart sur le nouveau Smart, donc avant Super Physique. On avait deux petits jeunes de 16 ans, et les mecs, putain, en un an, ils s'étaient transformés, quoi. C'est assez impressionnant. Puis maintenant, ils ont disparu, donc. Mais non, ouais, ça gênait pas des masses. C'est pour ça qu'on voit, en plus, c'est plus facile de progresser quand on est jeune, et puis qu'on est étudiant, et puis qu'on a le temps de se reposer. On n'est pas stressé, c'est quand même plus simple.
Ouais.
Donc, à moi de jouer maintenant. Entraînement. Le curl incliné est-il vraiment l'exercice magique des biceps pour tout le monde? La réponse est non. Donc ceux qui ont déjà lu mon premier e-book, mais ceux qui reprennent du muscle tome 1, donc j'avais parlé de la notion de l'exercice magique. Donc c'est pas forcément l'exercice magique pour tout le monde. Je sais plus si c'est dans mon e-book aussi gratuit que j'offre sur mon exercice magique de triceps dont j'en avais parlé. Ça va dépendre beaucoup de la longueur de votre muscle sur le curl incliné. Donc par exemple, si vous avez les biceps très courts, donc c'est-à-dire que quand vous contractez le bras, il est très loin de l'avant-bras, il y a un gros espace entre votre avant-bras et votre biceps. le curl incliné va pas être trop favorable pour travailler vos biceps, parce qu'en fait il y a beaucoup de tendons, et donc en étirant le biceps au curl incliné, l'amplitude... Julien, t'as pas sur le clavier.
Ah, pardon.
Alors, on dure celui-là. Donc, en fait, donc, si vous avez un biceps court et que vous faites du curl incliné, l'amplitude efficace va être assez restreinte. Et donc, le curl incliné va perdre un peu de sa superbe. Et donc, dans ce cas-là, je conseille plutôt de faire du curl au pupitre ou en mettant la bonne inclinaison pour pas que ça étire trop, en fait, pour s'y retrouver. Donc, pour chaque muscle, il y a, normalement, pour chacun, au moins un exercice ou deux de magique à trouver. Donc pour moi, là, je reprends l'exemple, pour moi qui ai les biceps un peu longs, le curl incliné pour moi c'est magique, et le curl au pupitre c'est magique. Pour d'autres qui ont le biceps court, ça peut être le curl prise marteau, c'est super magique, et puis le curl au pupitre peut être magique aussi. Après, à voir suivant chacun, suivant la longueur de vos muscles, après ne bien penser à adapter les exercices à sa longueur de muscle, donc c'est quelque chose que je vais développer dans le tome 2, de mes secrets pour prendre du muscle, que j'avais commencé, que j'ai commencé à écrire, mais ça fait un moment que j'ai pas écrit dessus. Et donc, l'amplitude des exercices est bien à adapter suivant la longueur de vos muscles. Et après, on retrouve quand même cette notion d'efficacité. Donc, sur un exercice qui étire, comme le curl incliné, si votre biceps est court, même si vous essayez d'adapter l'amplitude, pour essayer de conserver un étirement, ça perd quand même de sa superbe. Donc, c'est pas forcément utile de le faire, mais vaut se concentrer sur d'autres exercices que vous sentez, que vous sentez mieux. Julien, ça te convient?
Ah, très bien, oui, mais je pense que tu en parlais déjà un peu. Il y a eu des articles sur ton site, non, par rapport à ce curl incliné, il me semble, non?
Ouais, bah, j'en avais déjà parlé, mais bon, ça fait toujours du bien de faire un petit rappel sur la notion d'exercice magique.
Oui, mais du coup, on peut aussi conseiller d'aller relire.
Mais on peut toujours conseiller, Julien.
Bah ouais.
Le site est tellement gros.
Ouais.
C'est ça le truc, c'est que, en parlant de ça, on me demande souvent qu'on n'arrive pas à retrouver les articles sur le site, mais il y a un petit moteur de recherche en haut du site, qui est très bien fait, qui marche super bien, il suffit de mettre un nom d'article ou un sujet qui vous intéresse, et tout sort à partir du site et du forum, et vous retrouvez tous les sujets que vous voulez. Donc, ou même si vous arrivez sur le site et que vous connaissez pas forcément tout ce que j'ai écrit ou tout ce que Julien a écrit, vous tapez un nom d'article ou, je sais pas, les protéines, nanana, et paf, vous tombez sur tout ce qui correspond avec ce sujet-là. Donc voilà. Julien, c'est pour toi.
Ah.
Le régime cétogène est-il obligatoire pour sécher? Alors Julien, qu'est-ce qu'un régime cétogène déjà?
Techniquement, c'est un régime sans glucides, on va dire, qui utilise les corps cétoniques produits lors de la dégradation des lipides pour fournir de l'énergie.
Donc les corps cétoniques, qu'est-ce que c'est?
Ah bah c'est des dérivés des acides gras, donc qui sont utilisés pour fournir de l'énergie, pour faire simple. Donc ça va un petit peu remplacer les glucides qu'on utilise traditionnellement pour fournir de l'énergie. Donc c'est un mode de fonctionnement énergie sur le plan énergétique qui est très différent de celui classique. Donc du coup, c'est un type de régime qui facilite la perte de graisse, hein, on va dire. C'est probablement le truc le plus efficace puisque pour perdre du gras, comme j'explique dans Nutrition de la Force, une des conditions, c'est d'avoir une insuline basse, un taux d'insuline circulant qui soit bas. Donc du coup, forcément, le régime cétogène, le taux d'insuline circulant, il est très très bas, puisqu'on mange plus de sucre, donc nécessairement, on est dans des conditions optimum pour utiliser les graisses corporelles.
Et concrètement, c'est un régime à zéro glucide, quoi.
Zéro glucide ou presque, on peut manger quelques glucides, mais en général très très peu. Donc les glucides qu'il y a dans les légumes, en général suffisent. Dans certains cas, on peut s'octroyer un ou deux fruits dans la journée, mais ça dépend de la personne, du gabarit et de certaines choses. Il y a des petites bandelettes en pharmacie qu'on peut utiliser pour voir si on a des corps cétoniques dans les urines et pour voir si justement on mange assez de glucides ou pas. Pour être toujours en état de cétose en fait. Donc c'est quand même un truc, c'est aussi expliqué dans le bouquin, mais c'est le régime cétogène, c'est peu utile pour la plupart des gens. La plupart des gens vont chercher déjà à minimiser pendant le régime la perte de masse musculaire. Minimiser la perte de masse musculaire, ça implique forcément de faire un régime lent. si on fait un régime trop rapide, on va perdre du gras, oui, mais on va aussi perdre beaucoup de muscles, parce qu'on va être dans un état de catabolisme pendant trop rapidement, quoi. Donc ça va pas. Donc si on fait un régime progressif, bah on se contente de diminuer progressivement les calories, donc on passe pas à un régime cétogène tout de suite comme ça, c'est pas la bonne solution. Donc le régime cétogène, il va peut-être s'imposer à la fin d'un régime, quand on fait par exemple une compétition et que on arrive dans les dernières semaines, les dernières phases de préparation. Là, le régime cétogène va être utile, mais pas encore. Tous les athlètes n'utilisent pas le régime cétogène, même à la fin. Donc ça dépend des gens, de la capacité à perdre de la graisse. Et sinon, pour le pratiquant lambda qui nous écoute, le régime cétogène sert strictement à rien, hein, faut quand même le dire. Hein. Donc c'est pas un truc spécialement à utiliser comme ça, quoi. C'est plus une technique avancée.
Petite anecdote, parce que j'avais fait le suivi de ma sèche en 2007 sur le site, en toute ouais. partie, et j'avais testé justement... j'avais testé. À la fin, j'étais à zéro glucide, hein, forcément, pour être archi sec...
Ouais.
Pour être un squelette, j'étais passé à zéro glucide et donc j'avais acheté les bandelettes pour faire les tests. Et ben j'étais jamais en cétose. Et pourtant j'étais mort. Hein. J'étais mort et je bouffais pas de glucides. J'avais pas bouffé de glucides depuis 2 semaines.
C'était peut-être le mec qui s'était trompé. T'avais acheté les mauvaises bandelettes.
Bah je sais. Non, c'était, a priori c'était la bouteille. Je me souviens plus ce que j'avais acheté, mais a priori c'était les bonnes. Mais pas du tout, et puis non, mais c'est vrai, de toute façon, quand tu passes à zéro glucide, c'est la fin du régime, quoi. Si tu démarres directement à zéro glucide, t'es mort. Hein.
Ouais, ouais, mais on sait par contre qu'il y a certaines personnes qui l'ont fait, ça. Par exemple, Yann, hein, je crois. Yann, à une époque, commençait.
Ouais, un ancien membre de la team, ouais, mais bon, c'est pas les conditions de tout le monde, hein.
C'est pas les conditions de tout le monde, puis rapidement, il s'est mis à faire des rebonds, quoi.
Ouais, ouais, bah, il était strict pendant zéro glucide pendant un petit moment, mais bon, il avait l'occasion de pouvoir faire des siestes, de pas avoir de stress, de tout concentrer là-dessus, donc c'était plus simple, hein. Et quand t'es à zéro glucide, et puis que tu bosses, puis que le soir, tu rentres à ta femme, tes enfants et compagnie, tu tiens pas, hein, t'exploses, hein.
Ouais.
Là, j'en ai un, donc j'ai un nouvel élève là, depuis 3 semaines, il s'appelle Kevin. Donc c'est Kevin, si tu m'écoutes! Donc là, je vois que c'est dur, hein, pour lui, hein. Et on n'est pas à zéro glucide, hein. On n'est pas en glucides, mais on n'est pas à zéro, et il sent que c'est dur. Hein.
Ah bah c'est sûr.
Donc c'est vraiment la fin du régime où on est là, mais au départ, faut vraiment pas commencer comme ça. Donc petite pub pour mon e-book, Glycogène et secrets pour sécher. J'explique tout ça en détail. Plus de 20 témoignages en 10 jours. Attention.
Eh ben donc.
Attention.
Tu payes pour les témoignages?
Même pas. C'est des vrais en plus. Des fois, on me dit, ouais, c'est des fous. C'est pas moi qui les mets, hein.
Non, mon témoignage, il est vrai, hein, il est réel. Hein. Rudy m'a juste donné 10 000 euros pour que je le fasse.
Ouais, mais... bah, enfin, j'ai repayé le...
C'est un vrai témoignage.
Je suis pas sûr que tu rapportes 10 000 euros. Tu n'es pas William Carnimoller.
Donc, sur le cétogène, je pense qu'on a répondu à la question. Hein.
Ouais, je pense aussi.
Donc, non, c'est certainement pas obligatoire pour sécher, et c'est certainement déconseillé la plupart du temps, voilà.
Alors, autre question d'entraînement. Peut-on prendre du volume sur le haut du corps tout en perdant ou stabilisant le tour de cuisse? Si oui, comment travailler les cuisses? Donc, perdre du muscle, bah, c'est très simple. Hein. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Il suffit de plus travailler le muscle, hein, ça va partir tout seul. Julien, t'es un bon exemple. Julien, avant, il était énorme, il a arrêté de s'entraîner et paf, il n'y a plus rien.
Voilà.
Donc, c'est pas compliqué. Et après, pour stabiliser, c'est assez facile de stabiliser ses muscles. Donc, pour n'importe quel muscle, il suffit de faire toujours la même chose, sans chercher à progresser, voire même en réduisant un peu le volume de travail. Donc, imaginons que vous fassiez,
Parce que je pense que si on est jeune, même en gardant la même chose, on a tendance à gagner un peu quand même.
Ouais, bah, si on débute, mais sinon. Imaginons, je donne un exemple. Si demain, je veux prendre des cuisses, alors je vais faire du hack squat, du squat, des ischios allongés, du soulevé de jambes tendues. Donc voilà, je vais faire ça. Demain, je veux maintenir un exo pour chaque suffit. Donc, je ferai par exemple que du squat, du leg curl allongé et puis un exercice de mollet en maintenant mes performances chaque semaine en faisant la même chose sans trop forcer et ça maintiendrait le volume sans souci. Donc, après, oui, on peut continuer à prendre du volume sur le haut du corps, ça gêne pas. Tant qu'on progresse sur le haut du corps, on va prendre là où on travaille. De toute façon, il n'y a pas de. Mais stabiliser. Julien, attention!
Mais quoi?
On l'entend au clavier. Oh, le sagou. Ah,
hein. Non, c'est une impression. Tu
non, non, non. Hey, on a eu des plus sains la semaine dernière. Il y a eu des plus sains qui ont tendance sur le clavier. Donc, c'est facile de perdre du muscle. Donc, d'ailleurs, s'il y a Vincent Launay qui nous écoute, un ancien du forum, qui était spécialisé en perte de muscle, avec des entraînements un peu n'importe comment. Donc, il suffit de pas s'entraîner, hein, on perd très facilement. Et pour stabiliser, bah, donc, on réduit un peu son volume de travail et on maintient ses performances à peu près à 90% et on garde la majorité de son volume, qui a la totalité de son volume musculaire sur cette partie-ci. Donc, voilà. Pas très compliqué de stabiliser. Mais j'espère que celui qui pose cette question a des cuisses énormes.
Oui, j'avoue que j'ai été un peu surpris aussi par la question, mais bon, pourquoi pas.
J'espère qu'on a des... J'ai un mec justement à la salle comme ça, s'il m'écoute, mais je pense pas qu'il m'écoute, il s'appelle Thomas, et il a des cuisses de folie. Hein.
Ouais.
Un mec, je le vois s'entraîner, donc je discute bien. Il fait des séries de 10 à 110 au squat, donc j'ai revu sa technique et tout pour qu'il écarte un peu mieux, qu'il descende un peu à la parallèle. Et le mec, il a des cuisses. Un truc de malade. Et il m'a dit, ouais, il faut que j'arrête de prendre des cuisses et tout. Donc lui, il va se maintenir à 100 kilos en série de 10, parce qu'elles sont vraiment énormes. Il a pas assez sèche, mais c'est un truc de fou, hein. Même Gilles, à côté, il a pas de cuisses, quoi. Mais vraiment, le mec, c'est un truc genre, il fait 1m80, mais il fait au moins 70 de cuisses, mais à côté du genou, quoi.
Ouais, bah ça rejoint nos discussions précédentes sur la part de la génétique.
C'est un truc de fou, quoi. Le mec, je le vois faire les cuisses, je dis, putain, mais c'est pas possible, il met rien sur la barre. T'as rien. Ah, c'est de moi, quoi, mais c'est quand même une bonne performance, quoi, mais il dit, putain, mais les cuisses, c'est un truc de malade.
C'est vrai que ça doit être difficile par rapport à toi, qui est déjà faible et en plus pas musclé, ça doit pas être facile à vivre, hein.
Non, non, mais, non, bah non, je lui dis bravo, quoi, je dis, putain, super cuisse, hein. Ouais, je lui dis, bah super, hein, et puis après je me mets à côté, je dis, bon, bah, putain, je fais déjà tout ce qu'il faut pour les cuisses et puis je suis loin de lui, hein. Surtout à côté du genou, quoi, ça rend pas pareil, hein.
Prends un coach.
Julien, peux-tu me coacher? Non, je vais à Kuma.
Akuma, il dort, là.
Parce que William Ternimola, il va me faire un beau tout nu. Ça sert à rien, je suis déjà beau tout nu.
Je mettrai une photo pour qu'on vérifie.
Voilà, c'est ça. Dernière question de ce soir, Julien.
Oui.
Pourquoi, suite à une gastro, j'ai perdu autant de force au développé couché? Comment y remédier au mieux?
Alors, quand on avait une gastro, on était malade, déjà. Et puis, on a eu des troubles du transit, pour parler un peu proprement. Et en général, en fait, comme on a été beaucoup aux toilettes, on est un petit peu déshydraté après une gastro. Donc déjà, il y a une perte de poids parce qu'on n'a pas mangé beaucoup et qu'on est allé beaucoup aux toilettes, donc une perte de masse sèche. Et il y a aussi une perte d'eau qui est assez importante. On est un petit peu déshydraté. En plus, on a eu la réaction de la maladie avec la fièvre, l'inflammation, etc. Tout ça, au niveau du système nerveux, ça a un impact néfaste. Ces trois choses mises ensemble, c'est la catastrophe. En particulier, tout ce qui est déshydratation et puis perte de réserve de glycogène, hein, parce qu'on mange pas beaucoup, on puise dans le glycogène. Donc, on n'a plus de réserve énergétique, on manque d'eau, on est vraiment dans les conditions idéales pour être faible. Donc, la gastro, c'est vraiment le pire pour...
Et c'est vrai qu'on perd pas mal de force. C'est vrai qu'après une gastro, pour s'en remettre...
Ouais, alors par contre, faut quand même dire que... normalement, une fois que l'infection est passée, ça revient vite. En fait, ça revient vite, ça revient le temps de reprendre un peu... de remanger, de refaire un peu de glycogène, de refaire un peu de réserve, de bien se réhydrater, voilà, de se retrouver dans un bon statut nutritionnel et de le système nerveux récupère. Et ça peut prendre plusieurs jours quand même, voire une petite semaine. Donc faut pas s'alarmer si quand on retourne à la salle juste après une gastro, on a des perfs d'enfants.
D'enfants.
Non mais c'est normal, quoi.
Ah ouais, tu perds je vais donner des chiffres, hein. Ça m'est déjà arrivé, en gros, tu perds 2-3 reps, quoi.
Ouais.
Sur une série de 10, quoi, hein, donc ça fait un peu mal au cœur.
Ouais, c'est ça, bah ça fait 30%, ouais. Donc ouais ça fait ça, c'est pas facile à vivre, mais bon, faut aussi si on est un peu faut simplement se dire que c'est normal et puis que ça va remonter assez vite, hein. Et puis c'est le cas, hein, ça remonte après.
Ouais ça remonte, hein, au bout de 2 semaines. Là, j'avais un élève pareil qui avait été malade, il déprimait pour le coucher, puis la semaine suivante c'était revenu, quoi, mais
La question qu'il y a là, qui c'est comment y remédier au mieux, bah il y a pas grand-chose de miraculeux à faire. Les consignes, après, c'est toujours les mêmes quand on sort d'une gastro. Éviter de manger forcément trop de fibres parce qu'on a l'intestin qui est un peu fragile. Bon, là, ce qu'on peut conseiller, c'est de manger des purées de légumes, de manger des légumes cuits le plus possible, voire éventuellement écrasés après cuisson pour ramollir les fibres. Ça permet de digérer plus facilement et voilà. Et puis de choisir des céréales plutôt, par exemple, si on a l'habitude de manger du riz basmati complet ou demi-complet, de prendre plutôt du riz basmati blanc avec ça. Voilà ce genre de mesures, mais c'est un peu classique hein, qu'on donne ça pas spécialement aux sportifs, donc moi, je dirais ça.
Hein. En gros, quand il y a une gastro, on est cuit quoi.
Ah oui, il faut. C'est un peu, ça rejoint à ce qu'on disait à un podcast précédent. Est-ce qu'il faut arrêter de s'entraîner quand on est malade et puis penser à autre chose? Bah oui, faut prendre le temps de récupérer un peu et puis. En plus, on a des études, comme on l'avait dit, qui montrent que c'est probablement bénéfique de faire des pauses de temps en temps pour accélérer les gains de masse musculaire à terme, pour relancer un peu l'anabolisme. Donc, du coup, il n'y a pas de raison de se priver d'une pause quand on est malade. Faut vraiment profiter de cette pause et puis se dire, bon, ben voilà, et quand je me ressens mieux, je me ressens moins fatigué, j'ai remangé un peu, je ressens l'envie, allez hop, j'y retourne. Voilà.
Bon, bah, ça répond à la question. Donc, je rappelle que ceux qui veulent participer au podcast sont les bienvenus, sans poser de lapin, évidemment. Ce serait bien. Donc, il suffit de m'écrire et puis je vous donne la date de quand est-ce que vous passez avec moi et Julien à l'antenne.
Ouais.
Donc, on mange pas, donc c'est toujours avec plaisir, mais j'aime bien qu'on nous pose pas de lapin. Donc, si vous proposez, c'est pour être là.
T'as dit on mange pas, j'ai pas compris.
Oui, on mange pas ceux qui viennent.
Ah oui, on ne mange pas ceux qui viennent.
Vous pouvez aussi poser vos questions donc sur le forum, donc c'est la rubrique entraînement. Il y a un petit sujet en haut pour les questions sur le podcast, donc n'hésitez pas. On est toujours content de répondre et puis de s'amuser avec ces podcasts. Donc toutes les questions sont les bienvenues. Et puis j'aimerais dire à Julien alias William Carnimola qu'il nous prévienne la prochaine fois qu'il passe à la télé.
D'accord.
Parce que là j'étais surpris de le voir et il m'avait pas prévenu le mec. Alors j'étais obligé de l'appeler à 23h pour lui dire.
Bah ouais, mais...
Et alors, on oublie. Et comment va Akuma?
Bah, je te dis, il va bien. Bah là, il dort, mais il va bien. Il va bien. Sa nouvelle alimentation se passe bien. Il est de plus en plus féroce. Je tiens à le dire pour ceux qui suivent régulièrement ses aventures sur Facebook. Il est de plus en plus féroce. Et ça devient très, très difficile, la cohabitation, et c'est compliqué.
Ah, il va te foutre dehors.
C'est compliqué. J'ai des griffures un peu partout. Et là, je me pose des questions, effectivement, de... savoir ce que je vais devenir, en fait.
Ah bah, je pense que tu vas finir sous un pont. Hein.
Bah, je pense, ouais.
Parce qu'Akuma va garder l'appartement. Hein.
Il va me virer. Bon, bah voilà.
Donc voilà, c'est les petites news d'Akuma de la semaine.
Ok, merci pour lui.
Voilà. Bon, bah, je n'aurais plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute à tous, et puis on se dit, de toute façon, comme d'habitude, à la semaine prochaine.
Bon entraînement, les jeunes.